Radio JV présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu dit Boss Rush, tel Shadow of the Colossus ou No More Heroes, ainsi que les modes ou les niveaux dédiés à ces affrontements, tel Ocarina of Time sur 3DS, divers épisodes de Castlevania, les étapes finales de Mega Man, et ainsi de suite.
Première partie, présentation et problématique.
Comme les saisons précédentes, j'aimerais conclure cette troisième saison de Ludographie comparée en revenant encore une fois sur la question des boss. J'avais montré, à la fin de la première saison, à quel point ce signe était définitoire du média et la façon dont il s'exprimait notamment dans les jeux de plateforme. À la fin de la seconde saison, j'avais abordé le cas des boss précoces qui apparaissent dans les premiers instants de l'aventure et que l'on ne peut généralement nullement défaire. Et j'avais émis des hypothèses quant à leurs effets sur la construction narrative des jeux et sur le schéma action-récompense. Ici, j'aimerais m'apesantir sur une série de jeux ou un mode de jeu fort ancien que l'on appelle encore le Boss Rush. Il me semble que, de prime abord, l'expression la plus ancienne que nous pouvons trouver à ce mécanisme consiste en une étape, généralement située non loin du boss de fin, et qui demande au joueur d'affronter, dans un ordre déterminé ou non, les patrons précédents comme en un dernier baroud d'honneur. L'exemple canonique pourrait être la série des Mega Man, quelques versions que ce soit, celle des Classics, des X, des Zero, des Battle Network, où le Blue Bomber devra, avant sa dernière confrontation face au Dr. Wily, réaffronter les Robot Masters précédents. Si l'on peut considérer, concernant ce dernier exemple, que la chose est légitime et que le Dr. Wily, prévoyant, ait pu faire plusieurs versions de ses androïdes, bien d'autres jeux ne s'embarrassent pas de cette explication diégétique et se contentent de faire intervenir, tel un Deus Ex Machina, des anciens adversaires, rendus parfois plus forts pour l'occasion, et ce, pour éprouver le joueur. Cette tendance que l'on retrouve indifféremment dans les jeux de plateforme, de combat, dans les shoots 'em up, a rapidement permis la création de deux variations. D'une part, une option Boss Rush, généralement débloquée une fois l'aventure traditionnelle complétée, et qui permet aux joueurs de vaincre à nouveau les patrons les uns à la suite des autres, généralement dans une optique chronométrée. D'autre part, des jeux entiers organisés autour de ces confrontations, le joueur n'affrontant jamais que des boss, comme dans Shadow of the Colossus, ou bien encore faisant en sorte qu'ils deviennent les opposants primaires du joueur, le menu frétin, ne causant aucune espèce de problème, comme dans No More Heroes. Cet isolement sémiotique, peut-on dire, confirme si besoin était que le boss est bien, dans le monde du jeu vidéo, un symbole de son économie, la représentation de sa raison d'être. Et on le retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les jeux les plus récents, y compris dans les remakes de titres plus anciens, ne le proposant point, telle l'adaptation d'Ocarina of Time sur 3DS, témoin de son importance. Cette inclusion, ces jeux qui tournent tout entier autour du principe du boss, ne sont pas sans poser problème quant aux propriétés du signe boss et, même, peut mettre à mal le modèle théorique que nous avons élaboré dans les émissions précédentes et que je m'en vais résumer ici. Nous avions considéré effectivement qu'un boss se définissait, dans un jeu vidéo, non par son apparence, sa forme, sa résistance vis-à-vis des ennemis précédents ou subséquents, mais par le fait qu'il marquait la fin d'une étape, d'un niveau ou d'un jeu. Il est un indice de continuité et de rupture narrative avant toute chose, et sa valeur n'est pas définie en et par elle-même, mais bien structurellement, au regard du grand tout que compose un niveau ou un jeu. Nous en avions conclu, et cela avait alors été confirmé dans l'analyse des boss précoces, qu'il faisait intégralement partie du schéma action-récompense et qu'il n'était pas alors un obstacle avant la dite récompense. Il est la récompense du joueur et sanctionne alors sa progression. Dans le cadre d'un boss rush, terme englobant alors l'intégralité des expressions que j'ai présentées plus haut, ce modèle est mis à mal puisqu'ils sont soit relégués au rang d'obstacles, d'ennemis avant la confrontation du boss final, ou bien des paliers à franchir pour faire un bon temps, pour avoir un objet caché, et ainsi de suite. Nous sommes alors dans un cas tout particulier, où le signe boss évolue du tout au tout par sa multiplication, soit par sa mise en réseau avec lui-même. Il y a là une impossibilité théorique qu'il nous faut résoudre. Nous poserons ainsi la problématique de cette émission comme suit, semblablement aux précédentes. Quelle est l'influence sur le schéma action-récompense d'un jeu ou d'un mode boss rush?
Deuxième partie, l'unique et le multiple.
Il est une théorie depuis l'Antiquité et que l'on retrouve très régulièrement dans la pensée moderne, c'est que notre esprit pense surtout en chiffres. Nous conceptualisons, classons, ordonnons en fonction des données numériques auxquelles nous pouvons avoir accès et, si jamais les choses ne se présentent pas en chiffres, nous leur donnons des valeurs arbitraires afin de pouvoir les classer. Il en va du jeu vidéo de la même façon, et les chiffres sont omniprésents. On les manipule, évidemment, par l'intermédiaire des barres de vie et des statistiques des héros, par les dégâts donnés et reçus, par l'argent collecté. Mais nous avons également un rapport aux chiffres par l'intermédiaire de données plus abstraites comme, par exemple, le nombre d'ennemis présents dans l'aire de jeu. Les développeurs jouent effectivement énormément sur ce paramètre, que l'on en soit conscient ou non, pour structurer leur niveau et pour indiquer la progression du joueur. Les premiers stages, très généralement, et les premiers moments des niveaux en général, ne présentent qu'un nombre très limité d'ennemis et d'obstacles et les augmentent ensuite progressivement. C'est là l'un des mécanismes les plus anciens du jeu vidéo et on ne le retrouve presque toujours, quel que soit le genre, encore une fois, auquel nous nous essayons. C'est sur ce paramètre, notamment, que jouent les boss, en association avec leur apparence, même si cela n'est pas, comme nous l'avons dit, constitutif de leur rôle. Le boss, bien souvent, est unique, alors que les ennemis sont multiples. Il est unique en nombre, généralement seul dans cette portion du niveau, alors que les autres belligérants vous attaquent sans relâche. Et il est unique en forme. Rares sont les boss, même si cela existe volontiers, qui ont la même forme que les ennemis traditionnels. Ils se distinguent généralement par leur taille et par leur couleur. Le boss peut-on considérer à ce stade-là de notre réflexion, est donc un élément unique dans un univers de multiples. Le boss rush, en revanche, et à cet instant-là, renverse cette caractéristique en nous proposant de faire de l'unique un multiple. Dans cette succession de combats, l'entité univoque du boss disparaît au profit de sa position au sein d'une série et, sans point de comparaison antérieure, tout au plus un souvenir plus ou moins vague de la confrontation première, sa force symbolique, peut-on dire, disparaît. S'il demeure un adversaire d'une certaine difficulté, son mode de confrontation restant complexe et élaboré, on ne peut le comparer à nul autre obstacle antérieur. Il devient alors sa propre définition. En ce sens, il n'est pas interdit de considérer que ce phénomène permet de faire du boss non pas un ennemi à part entière, mais un niveau, un donjon, une énigme à lui tout seul. Si les boss des jeux de plateforme, et les boss en général comme je l'avais montré, se définissent souvent par le schéma tête et main, autrement dit point faible et attaque, c'est parce que les ennemis traditionnels se divisent en ces deux catégories. Dans Super Mario Bros. Ainsi, il est les ennemis que l'on peut toujours tuer, qui sont tout en points faibles comme les Goombas, et les ennemis qui sont tout en attaque et que l'on ne peut pas tuer, comme les Podoboos ou les Chenchomps. C'est la conjonction de ces deux propriétés indépendantes qui forment le boss. Lorsqu'il n'y a pas une telle démarcation auparavant, le joueur n'a aucun point de repère, y compris lorsque le boss rush apparaît comme une étape à la fin d'un jeu en particulier. Il convient de remarquer que dans ces cas-ci, comme dans les Mega Man, à l'exception du tout premier épisode, ou dans The Wind Waker, le boss rush prend place dans un jeu où les combats de boss sont situés à la fin de niveaux spécifiques et non pas isolés dans leur propre stage, comme on peut l'observer dans les Donkey Kong Country. Le boss ne devient pas une unité structurelle, mais bien un ensemble procédural. Du point de vue du schéma action-récompense, il n'est pas un simple cadeau, mais bien l'expression de ce mécanisme fondamental du jeu vidéo. Contrairement à ce que l'on pourrait pressentir, ce mode de jeu n'inverse pas la polarité signifiante du boss, mais l'élargit, ce qui en fait une étape paradoxalement attendue de la part du joueur.
Troisième partie, illusion de puissance et réalité de faiblesse.
En disant cela, nous n'avons répondu, en réalité, qu'à la première moitié de notre problématique. Nous ne nous sommes concentrés que sur l'avant-boss, la découverte ou le premier moment de la confrontation. Mais il nous faut maintenant nous concentrer sur l'après-boss, les moments suivant sa défaite. Il est possible de considérer les choses selon deux points de vue. Tout d'abord, si nous considérons qu'un boss, dans le cadre du boss rush, est une énigme, un donjon, un niveau à part entière, nous pouvons alors dire que la récompense allouée au joueur est la propre défaite de son ennemi. Cette prise de position n'est pas sans poser quelques problèmes dans les faits. Traditionnellement, la victoire face à un boss dans l'économie d'un jeu classique va dans le sens de l'illusion de puissance et de l'enrichissement des caractéristiques du personnage incarné par le joueur. Cette illusion peut soit être offerte, pragmatiquement, par l'obtention d'un nouvel objet permettant d'accéder à une nouvelle ère de jeu ou de mieux supporter les obstacles subséquents. Réceptacle de cœur dans les Zelda, nouvelle arme ou objet d'inventaire dans Metroid et les Metroidvania, ou plus généralement, par la possibilité offerte d'accéder à un autre niveau ou à une autre partie du jeu. Nous observons alors que ce modèle n'est pas unanimement respecté dans les boss rush. Si cela est le cas dans Shadow of the Colossus ou No More Heroes, nous n'observons pas cela dans un mode boss rush où la défaite d'un boss n'offre aucun objet complémentaire, ou dans les Mega Man, où l'ordre dans lequel nous pouvons affronter les boss est généralement laissé à la discrétion du joueur. Il nous faut alors trouver un autre modèle n'admettant aucune exception. C'est alors que l'on peut considérer, dans un second temps, que le boss, dans un boss rush, ne joue pas sur l'illusion de puissance, mais sur la réalité de faiblesse. Nous savons, et c'est là quelque chose que nous avons dit plus d'une fois dans cette émission, qu'un jeu vidéo se construit traditionnellement sur l'illusion de puissance, et que le schéma action-récompense va toujours dans le sens d'une partie euphorique où l'on gagne, encore et toujours, plus de capacités, plus de réflexes, plus de vie. Nous étions petits, nous devenons grands. Et même si, comme cela s'observe parfois, les fins de jeu sont tristes ou conduisent à un apocalypse, notre trajectoire personnelle, au sein d'un jeu quelconque, est celle d'un crescendo. Le pendant à ce principe, car chaque médaille a son revers, c'est ce que nous appellerons la réalité de faiblesse, concept qui n'est pas sans faire appel à un certain nihilisme. C'est l'idée qu'aux côtés de la puissance que nous gagnons étape après étape, niveau après niveau, nous restons indubitablement vulnérables et qu'en réalité, nous demeurons toujours aussi fragiles qu'au commencement du jeu. Cela est observé par l'intermédiaire de deux paramètres. D'une part, l'augmentation du niveau de difficulté. Théoriquement, plus un jeu progresse dans son économie, plus il devient difficile. Et si l'illusion de puissance nous permet bel et bien de revenir dans les niveaux précédents et de les traverser comme si de rien n'était, tel un dieu vengeur, l'on sait bien que les derniers niveaux, malgré nos nouveaux objets, malgré nos barres de vie gargantuesques, malgré notre meilleure connaissance des mécanismes du jeu, nous conduisent très souvent à l'échec. D'autre part, et précisément, ce spectre de l'échec qui nous accompagne toujours, ce n'est pas parce que nous continuons à progresser que nous devenons immortels, et même, nous mourrons plus régulièrement à la fin d'un jeu qu'à son commencement. Si nous y regardons bien, et si nous faisons abstraction de la courbe montante que l'on pense emprunter, l'on se rend compte qu'une expérience de jeu est en réalité dysphorique et que nous perdons davantage que nous gagnons au fur et à mesure de nos parties. Cette trajectoire décroissante, déprimante, est souvent contrebalancée dans l'expérience d'un jeu traditionnel par la somme des micro-succès que l'on parvient à acquérir au fur et à mesure. L'on pourra ainsi traverser sans encombre le dernier niveau d'un jeu de plateforme, mais échouer face au boss qui le termine. Cet échec n'y paraît guère, car nous sommes ragaillardis par notre progression antérieure, et l'illusion de puissance contrebalance la réalité de faiblesse. Un boss rush, à ce qu'il nous semble, joue cependant en plein sur la réalité de faiblesse, et ce à plusieurs niveaux et de plusieurs façons. Considérons la façon dont cela s'exprime dans les deux exemples prototypiques que j'ai évoqués plus haut, à savoir Shadow of the Colossus et No More Heroes. Dans Shadow of the Colossus, la réalité de faiblesse ne passe pas par les combats des colosses en eux-mêmes. Bien que l'on puisse arguer, ce qui est toujours discutable, que leur difficulté va augmentant, c'est surtout par l'intermédiaire de ces ténèbres qui englobent le personnage de Wanda à chaque victoire que la chose se produit. L'on a beaucoup parlé de cet événement lors de la sortie du jeu, et les joueurs ont toujours tendance à vouloir, en vain, leur échapper. Bien évidemment, cette récompense destructrice puisqu'elle provoque au fur et à mesure du temps la déréliction du personnage principal jusqu'à le conduire à sa chute, s'interprète diégétiquement et participe à la narration tout en pointillé du jeu, en nous faisant nous interroger sur le bien fondé de notre quête et l'interdit que représente la résurrection. Mais elle va également, ludiquement, vers cette réalité de faiblesse fondamentale. La même chose se rencontre dans No More Heroes, bien qu'exprimée différemment. Bien entendu, il n'arrive rien de similaire à Travis, et l'argent obtenu après complétion d'un niveau permet d'améliorer son équipement et de faire plus de dégâts. Mais en contrepartie, la construction du jeu elle-même enlève plus qu'elle n'offre. Tous les joueurs le savent, mais le péage pour accéder au prochain boss se fait rapidement très élevé, ce qui oblige à multiplier les missions et les petits jobs ennuyeux pour progresser dans la partie. Cela va même au point que l'on nous dénie un combat de boss, celui contre Let's Shake, nous renvoyant alors à notre pauvre condition d'otaku lamentable. Par incidence, nous pouvons étendre ce principe et cette observation à l'ensemble des boss rush que l'on rencontre dans nos jeux vidéo. Battre un boss dans ces modes-ci n'octroie pas réellement une récompense, du moins à court terme, mais nous amène directement à une autre confrontation. Et même dans les cas où, comme dans Megaman, l'obtention des armes des Robot Masters facilite grandement ces nouvelles rencontres, ces combats grèvent bien souvent nos munitions et notre énergie. Dans cette course contre la montre, c'est toujours la montre qui gagne. Nous sommes toujours indéniablement faibles et ces modes de jeu de nous le rappeler.
Quatrième partie, le nécessaire et le contingent.
Quittons alors ici la sémiotique pour cette longue conclusion à cette dernière émission de la saison et allons davantage vers la philosophie et le concept. Soyons directs et pragmatiques. Pourquoi jouons-nous ? Que recherche-t-on réellement dans l'exercice du jeu vidéo ? Pourquoi ce média, qui était à l'origine un défi d'ingénieur et ne touchait qu'une portion congrue de l'immense population humaine, gagne, au fur et à mesure du temps, de plus en plus d'adeptes dans toutes les catégories sociales et culturelles ? Quel est le sens de cela ? Nous pouvons y voir, comme beaucoup, une tendance naturelle de l'esprit humain d'aller vers la nouveauté. Et rien n'est plus nouveau que la technologie. De faire du jeu vidéo un représentant, un symbole des modes et des façons, et de le voir comme une illustration de ce que la science sait faire aujourd'hui de mieux en ce domaine, en proposant des contrôles encore plus poussés, des graphismes plus fins, une interactivité parfaite, la singularité avant l'heure, et cela est sans doute vrai. Nous pouvons y voir, comme beaucoup, un nouvel art total, comme a pu l'être l'opéra, mais qui reste, contrairement à ce dernier, incroyablement populaire et qui parvient à tout intégrer avec plus ou moins de bonheur. L'on y voit de la littérature, par l'intermédiaire de ces textes dont on ne saurait se passer, du cinéma, par ses mises en scène et ses ambitions. De la musique, qui transporte tout comme elle s'est inquiétée et exaltée. De la sculpture, par les volumes de ses bâtiments et de ses monstres. De la danse, par ses chorégraphies et ses mouvements. De la peinture, par ses paysages sans fin et ses couleurs chatoyantes. De l'architecture, par ses constructions complexes et ses donjons entortillés. Et cela est sans doute vrai. Nous pouvons y voir, comme beaucoup, une façon intéressante et vive de raconter des histoires, de faire réfléchir sur des principes historiques, fictionnels, éthiques, philosophiques, civilisationnels, une façon de faire rire, de faire pleurer de se moquer, de provoquer, de se révolter, de réinterpréter, de rêver et de faire oublier définitivement que nous ne sommes jamais passifs face à la vision d'un de nos semblables, mais constamment en dialogue, en tension, en réflexion, et que nous participons de la marche du monde, même de façon silencieuse, par notre regard et nos pensées qui nous appartiennent en propre. Et cela est sans doute vrai. Tout cela est sans doute vrai. Mais ce ne sont jamais là que des conséquences, et non des causes. Au-delà de la curiosité qui existe toujours, au-delà de la beauté qui nous étonne, au-delà de la pensée qui nous poursuit, qu'est-ce qui nous ramène, nous pousse, nous intrigue? Quel est donc ce ressort mystérieux de l'âme qui se tend, nous tire, nous amène vers le jeu vidéo? Il me semble, si je puis donner ici mon humble et petit avis, que la réponse se trouve là, dans le principe du jeu, dans cette illusion de puissance que l'on acquiert, dans cette réalité de faiblesse qu'il nous renvoie. S'il est quelque chose qui nous relie, tous autant que nous sommes, quel que soit notre pays, notre culture, notre âge, nos convictions, nos pensées, nos regards, nos croyances, nous sommes tous, indéniablement et indubitablement, des joueurs. Nous jouons depuis la petite enfance, avec une peluche ou un bijou, comme le chaton fait aller et venir entre ses pattes une pelote de laine. Nous jouons plus loin. Nous empruntons un chapeau, une écharpe, un manteau à un adulte ou à nos parents. Nous travestissons notre voix et nous jouons à être quelqu'un d'autre. Le petit garçon, la petite fille qui rentre de l'école, organise ses poupées autour d'une table de fortune et joue au professeur. Au collège, au lycée, nous jouons au football, au basket, sur la scène d'un théâtre. Nous jouons même au bon élève, parfois, à faire semblant d'écouter le professeur, ou au mauvais, en montrant clairement qu'on ne l'écoute pas. Plus grand, on joue le jeu de la séduction. On gonfle les muscles et les seins. On joue au tric-trac et aux quatre pas. En entreprise, on joue à la comédie salariale. On met son costume le temps de quelques heures avant de jouer à l'ami, au père de famille, à la mère sereine, au fils aimant, au cousin patient. À la fin de nos vies, nous jouons même à faire le mort. Et certains, tenaces, le font depuis des millénaires. La vie est un jeu, dit une célèbre formule. Il ne faut pas se méprendre sur ce message. Cela ne veut pas dire qu'il faut la prendre à la légère. Au contraire, et nombre vous le diront, il n'y a pas plus sérieux qu'un enfant concentré sur son ballon ou sa feuille de papier. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a aucune espèce d'importance, puisque tous les gestes sont importants et qu'il ne faut pas croire que l'on joue pour s'amuser. Cela ne veut pas dire qu'il y a des gagnants et des perdants, puisque l'exercice du jeu fait qu'on est tous gagnants dès que l'on participe à l'événement. Dire que la vie est un jeu, cela nous enjoint surtout à nous remettre en perspective, à étendre notre regard, à regarder le plateau, la table, le monde, comme un terrain où nous ne sommes pas face à des adversaires ou à des amis, mais face à des partenaires, tout aussi perdu que nous, ne connaissant pas parfaitement les règles comme nous, lançant parfois des coups au hasard, dans l'espoir de provoquer une réaction favorable. Un tour latin, qui se trouve également être un palindrome, dit « Ingerum imus nocte et consum imu regni ». En français, cela donne « Nous tournons en rond dans la nuit ». Et nous sommes dévorés par le feu. Tels des papillons de nuit girant autour d'une lampe et s'en approchant au point de se brûler, nous avançons, pas après pas, sur un gigantesque échiquier, sans savoir parfaitement quelles sont les règles. l'espace, l'objectif de la partie. Et pourtant, il nous faut jouer. Ce n'est pas pour moi que le jeu vidéo est contingent, qu'il est un accident de l'histoire humaine. Je me plais à croire que dans tous les univers, que dans toutes les réalités, le jeu vidéo existe, qu'il est nécessaire, que nous en avons besoin. Nous jouons parce que nous jouons. Nous jouons parce que nous devons jouer. Et le succès de ce média, qui jour après jour gagne de nouveaux adeptes, qui s'invite de plus en plus sur la scène du débat public, n'est pas un malicieux hasard, une force marketing, une simple tendance consumériste, même si, évidemment, il serait fou d'éliminer ceci de l'équation. Je me plais à croire qu'il y a là, bien plus que du rêve, de l'émotion, de la peur, de la violence, du sexe, de la terreur, du sang, des larmes, des frissons. Il y a du jeu. Je ne sais pas répondre à la question « Qu'est-ce que le jeu vidéo ?» Mais je puis dire que je joue.